Bienvenue à Comprendre son chien. Mon nom est Audrey Michel et je suis une amoureuse des animaux. Plus particulièrement, je me passionne pour la science comportementale. Avec ce podcast, je vais aider des gens comme moi, c'est-à-dire qui rencontrent des défis face au comportement de leur chien et qui veulent développer une relation plus harmonieuse avec lui. Le tout sans jugement et avec plaisir. Partager ma vie avec une chienne réactive a transformé la personne que je suis. C'est pourquoi je te partage ici mes réflexions et mon expérience, autant mes échecs que mes réussites. Parce que toi et ton chien, vous méritez de vous comprendre. Allô, allô! Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de Comprendre son chien. Je te remercie grandement d'avoir été là pendant les 11 dernières semaines avec moi dans cette nouvelle aventure qu'a été la saison 2. Et je vais prendre un peu plus de temps à la fin de l'épisode pour t'exprimer ma gratitude et te parler un peu de ce qui s'en vient possiblement pour la prochaine saison du podcast. Mais avant, on va s'attarder à la thématique du jour qui est « Pourquoi je n'aime pas l'expression « il n'existe pas de mauvais chien que des mauvais maîtres ». Et là, je vais mettre deux choses au clair en commençant. Premièrement, si tu utilises cette expression-là, ben, c'est bien correct. Et si à la fin de l'épisode, tu dis « Moi, Audrey, je vais continuer à l'utiliser cette expression-là », c'est bien correct aussi. Mon objectif, c'est pas de convaincre personne d'éliminer cette expression-là de son vocabulaire, mais c'est plutôt de partager mon opinion, ma vision, ouvrir la discussion sur les implications que les mots qu'on utilise peuvent avoir. Puis à ce sujet-là, d'ailleurs, le deuxième point, c'est qu'on s'entend. Aujourd'hui, on va être plus dans un niveau philosophique, je dirais. Concrètement, qu'on utilise cette phrase-là ou pas, ça change pas grand-chose. Bon, je suis pas tout à fait 100% d'accord avec ça. Je pense que ça change quand même quelque chose, sinon je ferais pas un épisode par rapport à ça. Mais je pense que disons que c'est pas là que l'énergie à mettre est la plus pressante. Mais j'avais quand même envie d'en parler parce que ça a été beaucoup dans mes pensées dernièrement. Je sais pas trop comment, mais je me suis remis à penser à mes études en sociologie et notamment au sociologue américain d'origine canadienne, Irving Goffman, qui est un des grands noms de la deuxième école de Chicago. Là, j'irai pas dans les gros détails par rapport à ça, là, mais je vous donne un peu de contexte. Et dans le fond, Irving Goffman a écrit un ouvrage qui se décline en deux tomes, et cet ouvrage-là s'appelle La mise en scène du quotidien. Et petite précision, Irving Goffman était un sociologue, mais aussi un linguiste. Et ce que j'ai vraiment retenu, moi, des travaux d'Irving Goffman pendant mes études, c'est cette idée que les mots qu'on utilise construisent notre réalité sociale. Vous pouvez être d'accord ou non avec cette prémisse-là. Si vous n'êtes pas d'accord, bon ben, mais l'épisode d'aujourd'hui vous convaincra probablement pas. Mais si vous êtes d'accord avec ça, ben, peut-être que justement, votre perception vous aussi de l'expression « il n'existe pas de mauvais chien que des mauvais maîtres » va peut-être changer pour toi aussi. Peut-être que non, mais bon. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est plus une question d'ouvrir le dialogue, la discussion, la réflexion. C'est pas des enjeux pressants qui vont changer le monde là, demain matin. Donc pourquoi j'aime pas cette expression-là? Ben en fait, faut savoir, je l'ai déjà utilisée régulièrement, cette expression-là. Mais je l'ai utilisée avant d'avoir un chien réactif. Donc, pourquoi j'aime pas cette expression-là, alors que je l'ai moi-même utilisée fréquemment par le passé? Eh bien, je dirais qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est les attentes que les gens ont envers c'est quoi un bon chien. Et deuxièmement, c'est les attentes de ce que les gens ont envers c'est quoi un bon maître. Je m'explique. Quand je parle des attentes que les gens ont envers les chiens, je parle de la majorité des gens. Je parle pas nécessairement des gens qui sont à l'écoute du présent podcast. Mais prends n'importe qui dans la rue, puis la plupart des gens pensent qu'un bon chien, c'est un chien sans comportement. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un chien qui ne jappe pas. C'est un chien qui ne tire pas. C'est un chien qui ne saute pas. C'est un chien qui ne creuse pas. C'est un chien qui marche parfaitement au pied en laisse, qui ne s'arrête jamais. Essentiellement, c'est un robot ou une peluche. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai régulièrement entendu des gens se plaindre que des chiens étaient mal élevés, alors que c'était des comportements tout à fait normaux de chiens. Et là, ben, quand on dit que le chien est mal élevé, que c'est un mauvais chien, on pointe bien entendu le doigt vers les maîtres. Et là, on dit, ben là, si le chien a des comportements que je trouve indésirables, forcément, c'est la faute de son maître. Puis par le passé, j'étais 100% d'accord avec ça. Mais par le passé, j'avais pas un chien qui avait des défis. J'ai eu des chiens qui étaient quand même assez faciles à entraîner, puis qui avaient, oui, des problèmes de comportement, mais disons des problèmes de comportement qui sont pas si dérangeants que ça pour les autres personnes. Donc, j'avais un chien qui avait peur des balades en voiture, qui était stressé au vétérinaire, mais j'avais jamais eu un chien qui avait des comportements agressifs. Et j'avais jamais eu un chien à haute énergie aussi. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode pilote, j'avais parlé que quand j'avais adopté Taiga, là, moi, je me disais, j'ai fait tellement de formations sur le renforcement positif. Ça va être easy peasy. No problem. Ça va aller comme sur des roulettes et j'ai frappé un maudit mur. Mais heureusement pour moi, et ça je vais revenir un peu plus tard, j'avais entendu une entrevue avec Nancy Tucker au sujet du Good Enough Dog. Et ça je vais revenir un peu plus tard, mais pour moi ça a vraiment été ma salvation. Mais c'est ça, la majorité des gens pensent qu'un bon chien, c'est un chien sans comportement. Un chien parfait, c'est l'équivalent d'un robot ou d'une peluche pour la majorité des gens. Et évidemment, comme j'ai dit, ben quand le chien a des comportements qu'on juge indésirables, ben on pointe le doigt vers le propriétaire. Puis on dit, ben là, si ton chien jappe, si ton chien jappe quand il y a des passants dans la rue, ben c'est clairement parce que t'as pas éduqué ton chien comme il faut. Pis c'est vrai qu'il y a des gens qui laissent leur chien japper puis qui font rien. Ça, je l'admets. Mais la majorité des gens, là, ça leur fait pas plaisir que leur chien jappe après les passants. Puis, des fois, ils vont essayer des choses puis ils ont juste pas de succès. Des fois, les gens ont vraiment simplement un manque d'éducation. Et malgré leurs plus grands efforts, ben, sont pas capables de faire cesser le comportement. Puis là, on va dire, oui, mais là, pourquoi ils font pas affaire avec un éducateur canin? Puis je recommande constamment aux gens de faire affaire avec un éducateur canin ou un intervenant en comportement canin. Mais parfois, on se le cachera pas, les gens, pour des raisons financières, peuvent pas se le permettre. Puis avant, j'aurais absolument jugé les gens de dire, ben là, si t'as pas les moyens d'avoir un chien, tu mérites pas d'avoir un chien. Mais avec le temps, ma vision de ça aussi a changé. De me dire, ben, pourquoi est-ce que ce serait seulement les personnes les plus privilégiées financièrement qui méritent d'avoir des chiens? En fait, les gens qui ont des difficultés financières probablement bénéficient plus de l'aspect zoothérapeutique qu'un chien peut leur apporter qu'une personne que tout va bien dans sa vie, notamment au niveau financier. Mais bon, je m'écarte un peu de la question. C'est que je trouve qu'on a le jugement très facile envers les propriétaires de chiens. Du moins, la majorité des gens ont un jugement très facile envers les propriétaires de chiens. Et moi-même, j'étais dans cette situation-là auparavant parce que, comme je dis, j'avais pas un chien à défi. J'avais des chiens assez faciles à vivre. Mais maintenant que j'ai un chien à défi, ben, ma vision a changé. Puis justement, quand je dis que j'ai frappé un mur, c'est que moi, je m'attendais à transformer Taiga en chien parfait. Puis je me suis mis énormément de pression par rapport à ça. Puis chaque fois que j'entendais cette phrase-là, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que les gens pensent de mon chien? Et je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui pensent que je fais pas une bonne job avec mon chien. Puis ils pensent ça parce que eux, ils adhèrent encore à l'idée qu'il faut punir les comportements indésirables d'un chien, ce que je ne fais pas. Je vais plutôt privilégier des stratégies comme enseigner un comportement alternatif incompatible, par exemple. Je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui ont beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi je laisse mon chien s'arrêter et sentir en promenade. Et là, promener un chien, là, faut qu'il marche au pied, puis qu'il te regarde, puis qu'il arrête jamais. Fait que c'est pour ça que mon opinion sur cette phrase-là a changé, parce que je me rends compte que les attentes des gens sont souvent démesurées et sont souvent pas alignées avec la réalité de c'est quoi un chien normal, c'est quoi les comportements normaux d'un chien, sur comment ça se gère, ces comportements-là qu'on juge indésirables, et ce que ça représente aussi être propriétaire d'un chien à défi. Puis quand je vous dis, moi, ce qui a été ma salvation, c'est que j'avais écouté une entrevue avec Nancy Tucker au sujet du concept du « good enough dog ». Donc, Nancy Tucker, c'est une entraîneure certifiée CCPDT et elle est aussi certifiée auprès de l'IAABC. Puis elle est notamment instructrice là chez Fendi Dog Sport Academy. Puis bref, dans le fond, l'entrevue de podcast que j'ai écoutée avec Nancy, je vous mettrai le lien en note d'épisode. Elle partageait son expérience avec sa chienne Cherry et que c'était une chienne qui avait, disons, multiples problématiques. Et qu'elle était au départ dans le mindset de corriger tous les défauts de sa chienne. Au point que, ben, le plaisir était plus vraiment au rendez-vous. Parce que la seule chose qui occupait son esprit, c'était toutes les problématiques à régler. Puis un jour, elle a lâché prise, puis elle s'est dit, ben, mon chien, il est good enough. Et si on traduit ça en français, on pourrait traduire ça par « mon chien, il est suffisant ». C'est probablement pas la meilleure traduction, mais c'est l'idée que notre chien soit parfaitement imparfait, d'embrasser les imperfections de notre chien. Puis attention là, l'idée du « good enough dog », c'est pas de dire « ah, mon chien est réactif, c'est correct, j'accepte son imperfection ». Non, c'est pas de dire ça. Quand on a une problématique qui est aussi dangereuse que la réactivité, dans le sens que ça pourrait résulter à une morsure, il faut s'en préoccuper, il faut faire quelque chose pour régler cette problématique-là. Mais est-ce qu'on est obligé de s'attaquer à toutes les problématiques de notre chien? Puis, moi, quand je vous dis ça, ça m'a sauvée. Dans le sens que moi, mes énergies, j'ai décidé de les mettre sur la réactivité de Taga. Mais les autres problématiques de comportement, comme par exemple, elle jappe quand c'est l'heure de préparer sa nourriture. C'est un chien qui creuse des trous, qui gratte. Ben moi, j'ai décidé que je lâchais prise sur ces comportements-là. Ça met pas personne en danger que mon chien jappe. Oui, ça peut être désagréable là, pour le voisinage, mais on s'entend, elle jappe pas 24 heures sur 24. Mais j'ai déjà entendu des gens se plaindre parce qu'un chien va japper quelques fois dans la journée. Parce que dans la tête des gens, un bon chien, c'est un chien qui ne jappe jamais. Oui, quand elle gratte, ça l'abîme mon plancher. Mais j'ai décidé de vivre avec. J'ai fait le choix d'avoir un chien. J'accepte que ça vienne avec des graphines sur mon plancher. Puis c'était cette idée-là aussi de dire que on n'est pas dans l'obligation de tout entraîner. J'avais déjà parlé dans l'épisode sur la modification comportementale avec Lisa Longo dans la saison 1 que un des arrangements d'antécédents que j'ai fait dans ma maison, c'est de mettre une pellicule sur mes fenêtres pour empêcher que Taga puisse voir les écureuils. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ça, c'est un plaster. Puis, Tu sais, je me suis déjà fait dire, c'est pas normal de mettre des affaires dans tes fenêtres pour que ton chien arrête. Faudrait que tu l'éduques à la place. Mais pourquoi me donner tout ce casse-tête-là quand j'ai une solution hyper simple qui règle mon problème puis qui a pas d'effet négatif comme tel sur moi? Pourquoi je me priverais de ça? Fait que c'est là que l'idée du good enough dog ou du chien parfaitement imparfait, je vous dis, ça a été ma salvation parce que je me suis donné le droit de pas viser pour un chien parfait. Puis ça, ça m'a été utile récemment encore. Si t'as écouté mon épisode la semaine dernière sur la muselière, je t'ai partagé que lors de la dernière visite chez le vétérinaire avec Taiga, que la vétérinaire a souhaité faire l'injection de vaccin au niveau de l'arrière-train de Taiga, chose que on n'avait jamais fait auparavant. On avait toujours fait les injections dans les épaules. Et Taiga n'a pas apprécié que la vétérinaire tente de l'injecter dans l'arrière-train. Donc, elle s'est retournée, elle a snappé en direction de la vétérinaire. Et là, on lui a mis sa muselière et j'ai quitté. Puis là, moi, là, je me tapais sur la tête en me disant « Oh mon Dieu, j'aurais dû travailler tellement plus les soins coopératifs, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Et là, à un moment donné, je me suis rappelé « Hey Audrey, là, dans vie, tu peux pas tout entraîner. » C'est vrai, t'as pas entraîné les injections en soins coopératifs. Pis c'est vrai que ça aurait pu aider si t'avais travaillé ça, notamment vu que je sais que Taiga est sensible au niveau de l'arrière-train. Mais de un, je savais pas qu'on allait changer la routine. Et de deux, j'ai quand même enseigné à mon chien à porter la muselière. Puis ça aurait été pas mal plus compliqué si je l'avais pas fait, puis que là, on l'avait en disant, on va mettre une muselière, puis je me dis, j'en ai fait assez. Je peux pas tout faire. Donc, c'est pour ça que, quand je reviens à l'idée de dire, il y a pas de mauvais chien, il y a que des mauvais maîtres, ben, c'est quoi qu'on veut dire par ça? C'est quoi les attentes qu'on a envers le chien puis envers le maître? Quelqu'un aurait pu très bien me dire un chien qui snappe vers le vétérinaire, c'est un mauvais chien, donc t'es une mauvaise maître. Ben, pas tout à fait. Ton chien snappé envers le vétérinaire, c'est parce que t'as pas fait ta job de maître, donc t'es un mauvais maître. Je pense que tu saisis l'idée de ce que j'essaie de communiquer avec ça. Puis je reviens aussi sur l'idée de c'est quoi un bon chien. Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de gens pour qui un bon chien, c'est un chien sans comportement, un robot, une peluche, comme je disais tout à l'heure. Mais dernièrement, je me suis également aussi beaucoup questionnée sur ma propre utilisation du terme « bon chien ». Parce que c'est ça, comme je disais tout à l'heure, je crois à l'idée que les mots qu'on utilise construisent notre réalité. Puis pas dans un sens magique, là. Moi, c'est vraiment l'idée que les mots qu'on choisit, les mots qu'on utilise, influencent notre perception du monde puis comment on conçoit le monde autour de nous. Donc, je reviens à ce que je disais, je me suis rendu compte que j'ai très tendance à dire à Taiga « Bonne fille! Bon chien! » quand elle est obéissante. Mais est-ce que ça veut dire que le reste du temps qu'elle m'obéit pas, c'est pas un bon chien? C'est pas une bonne fille? J'ai réfléchi beaucoup à ça dernièrement, puis non, mon chien c'est un bon chien tout le temps. Qu'elle m'obéisse ou pas. Puis pour être ben honnête, je l'utilise encore, le bon chien, bonne fille. Ça fait partie de mon vocabulaire, mais quand je dis, j'ai comme un double take là, de « Oups, hein, ouais, c'est pourquoi que je pense que c'est une bonne fille? Ah, c'est parce qu'elle m'obéit. » Donc, je suis un peu dans cette réflexion-là en ce moment. Comme je vous dis, c'est plus au niveau philosophique. Là. On s'entend que, concrètement, mon chien, que si j'arrête de l'appeler « bonne fille » puis que j'utilise un autre mot, un autre renforçateur verbal, ben, ça changera pas grand-chose à sa vie. Mais, moi, ça change quelque chose à ma perception de mon chien. Fait que c'est quelque chose à laquelle je porte particulièrement attention dans les derniers temps. Puis j'ai remarqué aussi que depuis que j'ai commencé à réfléchir à ça, je m'adresse beaucoup moins à mon chien sous des formes de commandes, mais plus sous des formes de questions. Dernièrement, j'ai remarqué que je dis plus à mon chien « Viens ici ». Je vais dire « Est-ce que tu veux venir ici ?» Par exemple, quand on est à une intersection, puis moi je voudrais aller à droite, puis elle voudrait aller à gauche. Puis des fois, ben, elle veut pas venir ici. Fait qu'on va à gauche au lieu d'aller à droite. Puis je me suis rendu compte que, ben, je suis beaucoup plus en harmonie avec mon chien depuis que je fais ça, parce que quand je dis « Est-ce que tu veux venir ici ?» Puis que là, elle dit non, on s'entend, elle dit pas non avec des mots, là. Mais qu'elle veut poursuivre vers la gauche, je fais comme « Ok, non, tu veux pas venir ici, c'est correct, on va aller du côté que toi tu veux aller. » Puis ça, ça me met beaucoup plus en paix avec mon chien dans nos marches, parce que je suis pas constamment en train de me battre, de dire « Ben viens-t'en ici, puis là elle veut pas venir, puis là j'ai haussé le ton, parce que là, c'est ça, je vais commencer par « Viens-t'en ici, puis là elle veut pas venir, puis là je vais me choquer, puis là, je sais qu'il faut pas hausser le ton, mais j'ose le ton pareil. » Mais maintenant que je pose des questions à mon chien, ben quand elle me répond non, je me choque pas, parce que je dis « Ben, si je voulais pas le savoir, j'avais rien qu'à pas y poser la question. » Et là, je divague un peu, puis attention, je dis pas de laisser son chien faire n'importe quoi. Puis une des choses que j'ai implémentées pour faire la distinction entre quand est-ce qu'elle a un choix puis quand est-ce qu'elle a pas un choix, ben c'est quand elle a pas le choix, je vais dire « Désolé, pas maintenant. » Puis là, ça veut dire « Ben, je suis désolée, pas maintenant. Maintenant, tu peux pas choisir. Désolée. » Maintenant, c'est moi qui décide. C'est un peu ça l'idée derrière ça. Puis, comme je dis, moi, dernièrement, je trouve que je suis vraiment plus en harmonie dans mes marches avec mon chien grâce à ça. Mais là, on est rendu loin de notre thématique sur « Il n'existe pas de mauvais chien que des mauvais maîtres. » Puis, je voudrais terminer sur, dans le fond, l'euthanasie comportementale. Je touche du bois. J'ai jamais rencontré un chien dans ma vie personnelle qui a nécessité une euthanasie comportementale. Et quand j'adhérais à l'idée « il n'y a pas de mauvais chien, que des mauvais maîtres », je jugeais énormément les gens qui allaient choisir de faire euthanasier leur chien parce que leur chien a des problèmes de comportement. Puis dans le fond, mon opinion a changé quand j'ai découvert Trish McMillan et Sue Alexander et leur initiative Losing Lulu. Lulu, c'était un chien qui était en famille d'accueil chez Trish McMillan. Trish McMillan, c'est une entraîneur que je respecte énormément. Elle se spécialise en agression chez les chiens et dans la gestion des chiens en milieu de refuge. Et Lulu avait des problèmes d'agressivité tellement prenants, tellement dangereux que finalement elle a pris la décision de faire euthanasier Lulu. Et ce n'était pas une décision qui était prise à la légère. Et l'idée qui est véhiculée par Trish McMillan et Sue Alexander, c'est que parfois, tout faire pour sauver un chien, c'est trop. Parfois, on n'a pas les ressources nécessaires, que ce soit les ressources émotionnelles, les ressources financières, les ressources en temps. Puis que parfois, la meilleure décision, c'est de faire euthanasier le chien. Puis ça, je sais que ça peut être controversé. Puis comme j'ai dit moi-même par le passé, je jugeais énormément les gens qui allaient faire euthanasier leur chien pour des raisons comportementales. Mais maintenant que j'ai moi-même un chien qui est réactif aux congénères, je suis capable de me placer dans la peau des gens qui prennent cette décision-là. Et quand on dit aux gens « il n'y a pas de mauvais chien, que des mauvais propriétaires » et qu'ils ont pris la énormément difficile décision de faire euthanasier leur chien, ben, quel message vous pensez qu'on est en train de leur envoyer? Imaginez devoir vivre avec la culpabilité d'enlever la vie à son chien alors qu'il est en parfaite santé physique, et que là, on t'ajoute la culpabilité de c'est parce que t'as pas fait une bonne job. Puis je crois sincèrement que la majorité des gens font vraiment du mieux qu'ils peuvent. C'est pour ça que maintenant, cette expression-là, je l'emploie plus. Parce que je trouve que ça met trop de pression sur les gens puis que ça reflète pas la réalité de c'est quoi avoir un chien réactif, mais aussi juste c'est quoi avoir un chien qui a des comportements normaux de chien. Donc voilà, c'était mon humble opinion sur cette question. Comme j'ai dit, mon objectif, c'est vraiment pas de convaincre personne. Puis, comme j'ai dit également, je pense pas qu'on va changer le monde en utilisant ou non cette expression-là. Mais, ça a été beaucoup dans mes pensées dernièrement, puis j'avais envie de le partager. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, on arrive à la fin de l'épisode. Et, comme je disais en début, c'est le dernier épisode de la saison 2 de Comprendre son chien. Et j'ai vraiment énormément, mais plein de gratitude pour toutes les personnes qui ont été à l'écoute cette saison-ci. Vous avez été géniales. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'écrire en privé ou à repartager mon contenu. J'ai vraiment senti que ça venait vous chercher un peu plus loin, le contenu que j'ai partagé, que ça venait vous toucher un peu plus parce que je partageais ma réalité, mon expérience. Puis oui, les entrevues, j'adore ça. Puis c'est encore mon intention d'en faire dans le futur. Mais j'ai vraiment eu l'impression de plus connecter avec vous autres, les auditeurs, les auditrices, avec ce format-là. Puis au départ, j'étais très stressée parce que je me disais « Ouais, mais je suis qui, moi, là, tu sais? » Moi, je suis une, entre guillemets, je suis une simple propriétaire de chien. Mais, vous m'avez démontré que, ben, ma voix, elle compte. Ma voix, elle mérite d'être entendue. Et pour ça, je vous remercie sincèrement du plus profond de mon cœur. Vous n'avez pas idée comment ça me fait plaisir de lire vos messages. Je suis extrêmement reconnaissante et très heureuse d'avoir osé essayer ce nouveau format-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour la saison 3? Ben, en fait, comme je disais, j'aimerais refaire des entrevues, mais le format solo, c'est sûr qu'il va demeurer parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment eu l'impression de plus connecter avec vous. Mais là, le questionnement que je me pose, c'est que, bon, le podcast s'appelle « Comprendre son chien ». Je vais faire une petite confession. Au départ, je me posais la question de savoir est-ce que je fais un podcast sur le comportement canin ou sur le comportement équin. Parce que j'ai aussi deux chevaux et, en fait, mon introduction aux méthodes d'entraînement positif, ça a été fait par le monde des chevaux. Mais, si vous gravitez dans l'univers équin, vous savez que le clash entre le traditionnel et les méthodes positives est encore plus présent dans le monde équin. Donc, j'avais pas osé, disons, me tremper les orteils dans le comportement équin parce que je me disais, bon, ben, les gens sont pas prêts. j'avais peur. J'avais peur de ce que les gens auraient à dire. Mais là, avoir la superbe réponse que j'ai de vous par rapport au comportement canin, alors qu'au départ, je me disais, mais mon Dieu, justement, je suis qui, moi, pour parler de ça? Ben, ça m'a donné la confiance en moi-même. Puis ça, comme j'ai dit, j'en suis grandement reconnaissante. Au point que là, ben, je commence à avoir envie de me tremper les orteils puis de parler de comportement équin. Donc, c'est ce que je veux savoir. C'est ma question pour toi en terminant la saison 2. Est-ce que si j'ajouterais du comportement équin dans les épisodes, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu voudrais un podcast qui mélange les thématiques, une fois on parle de comportement équin, une autre fois on parle de comportement canin, ou est-ce que tu préférerais deux podcasts distincts? C'est sûr que moi, je penche vers l'option de ramener tout ça sous le même podcast, mais je veux savoir, toi qui es à l'écoute, est-ce que ça t'intéresse d'entendre parler de comportement équin? Puis je parle de comportement équin, mais puisque j'aimerais refaire des entrevues, je pourrais ouvrir plus large puis qu'on parle de comportement d'autres espèces également. Donc, c'est ça. C'est ce que je veux savoir. Toi, qu'est-ce qui t'intéresserait d'entendre pour la prochaine saison? Est-ce que tu veux que je continue de me consacrer 100% au comportement canin ou du comportement équin et du comportement d'autres espèces animales? Ça t'intéresse aussi. Donc, n'hésite pas à m'écrire pour me faire savoir ce que t'en penses. Tu peux m'écrire dans le groupe Facebook, tu peux m'écrire en message privé sur Facebook. Ça me fait toujours vraiment plaisir de te lire. Et pour la question « Quand va sortir la prochaine saison? » Eh bien, j'ai pas de réponse coulée dans le béton, mais mon idée, c'était de prendre une pause de quelques semaines pour justement réfléchir à qu'est-ce que j'aimerais présenter comme contenu et de faire un retour plus tard à l'automne, quelque part autour d'octobre ou novembre, pour vous présenter des nouveaux épisodes. Donc, c'est ce qui s'en vient. Et en terminant, encore un très, 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 très grand merci. Merci d'être à l'écoute et on se dit à la saison prochaine. Bye bye!